Dès le jour de mon entrée en fonction, nous savions que les élections de mi-mandat seraient rudes. Historiquement, le parti à la Maison-Blanche perd presque toujours des sièges après ses deux premières années en place, car une partie au moins des électeurs trouve des raisons d'être déçus. Le taux de participation est aussi bien plus faible à la mi-mandat et, du fait notamment d'une longue histoire de discrimination électorale, ainsi que des procédures alambiquées encore en vigueur dans de nombreux États qui rendaient l'accès aux urnes bien trop difficile, cette baisse était la plus forte chez les jeunes, les classes populaires et les minorités, trois groupes plutôt enclins à voter démocrate. Tout cela nous aurait déjà compliqué la tâche si nous avions connu un climat de paix et de prospérité relative. Or, bien entendu, ce n'était pas le cas. Malgré une reprise de l'embauche, le taux de chômage est resté bloqué autour de 9,5% en juin et en juillet 2010, parce que les collectivités locales, prises à la gorge, continuaient à licencier des fonctionnaires. Au moins une fois par semaine, je me réunissais avec mon équipe économique dans la salle Roosevelt pour tenter d'imaginer des plans de relance complémentaires que plusieurs sénateurs républicains ne pourraient rejeter sans se couvrir de honte. Mais au-delà d'une extension des prestations de l'assurance chômage d'urgence, consentie à contre-cœur avant l'ajournement de la séance parlementaire en août, McConnell a dans l'ensemble réussi à maintenir son groupe dans les clous. « Ça me fait de la peine de l'avouer », m'a dit un sénateur républicain venu à la Maison-Blanche pour une autre raison, « mais plus les gens sont mécontents en ce moment, mieux on se porte ». Le vent de l'économie n'était pas le seul à souffler contre nous. Les sondages donnaient habituellement l'avantage aux républicains sur les questions de sécurité nationale, et depuis mon entrée en fonction, le GOP cherchait à renforcer cette avance, ne laissant jamais passer l'occasion d'accuser mon gouvernement d'être faible sur les questions de défense et trop gentil avec les terroristes. En général, ces attaques tombaient à l'eau. Les électeurs avaient beau être désabusés par ma politique économique, ils continuaient à me donner de bonnes notes en sécurité. Ces chiffres s'étaient maintenus après l'attentat de Fort Hood et celui avorté de Noël. Ils sont même restés à peu près inchangés quand, en mai 2010, un homme du nom de Faisal Shahzad, un citoyen américain naturalisé qui avait passé toute sa jeunesse au Pakistan et avait été entraîné par les talibans pakistanais, a tenté sans succès de faire exploser une voiture piégée en plein Times Square. Mais les 180 000 soldats toujours déployés sur des fronts étrangers ont pesé sur les élections de mi-mandat. Et même si nous entrions dans la dernière phase du retrait d'Irak, le retour des dernières unités de combat étant prévu pour le mois d'août, les affrontements estivaux en Afghanistan laissaient présager une hausse douloureuse du nombre de victimes américaines. J'avais été impressionné par la manière dont Stanley McChrystal avait commandé les forces de la coalition. Les troupes supplémentaires dont j'avais autorisé l'envoi avaient aidé à reprendre une partie du territoire aux talibans. L'entraînement de l'armée afghane progressait rapidement et McChrystal avait même réussi à convaincre le président Karzai de s'aventurer hors de son palais pour aller au contact de la population qu'il prétendait représenter. Mais chaque rencontre avec les militaires soignés à l'hôpital Walter Reed et à celui de Bethesda me rappelait le coût terrible d'avancer aussi marginal. Alors que mes premières visites duraient généralement une heure, désormais, les hôpitaux se remplissant, j'y passais le plus souvent le double. Une fois, j'ai découvert dans une chambre un homme victime d'un engin explosif improvisé, sa mère à son chevet. D'épaisses sutures couraient tout le long de son crâne en partie rasée. Il avait perdu l'œil droit, semblait partiellement paralysé et avait un bras gravement blessé pris dans un bandage. D'après le médecin qui m'a exposé son dossier avant que je pousse la porte, il avait passé 3 mois dans le coma. Il souffrait de lésions cérébrales permanentes et venait de subir une opération de reconstruction crânienne. « Cory, le président est là », a dit la mère du jeune homme d'une voix encourageante. Il ne pouvait pas parler, mais il a réussi à m'adresser un petit sourire et un salut de la tête. « Ravi de vous rencontrer, Cory », ai-je dit en serrant doucement sa main mobile. « En fait, vous vous êtes déjà rencontrés », a précisé sa mère. « Regardez. » Elle a montré du doigt une photo scotchée au mur, et en m'approchant, je me suis vu entouré par un groupe de rangers souriants. J'ai alors compris que ce soldat blessé était le sergent de première classe Cory Remsburg, le fougueux parachutiste avec qui j'avais discuté moins d'un an plus tôt lors de la commémoration du débarquement allié en Normandie. Celui qui m'avait annoncé qu'il repartait en Afghanistan pour son 10e déploiement. « Mais oui, Cory », ai-je fait en me retournant vers sa mère. Ses yeux m'ont pardonné de ne pas avoir reconnu son fils. « Comment est-ce que vous vous sentez ?»« Montre-lui comment tu te sens, Cory », a dit sa mère. Lentement, avec effort, il a haussé le bras et levé le pouce en l'air. Visiblement secoué, Pete nous a pris en photo tous les deux. Le sort de Cory et de tant d'autres comme lui n'occupait sans doute pas l'esprit des électeurs autant que le mien. Depuis la fin du service militaire et la professionnalisation de l'armée dans les années 1970, les Américains étaient moins nombreux à avoir des parents, des amis ou des voisins sous les drapeaux. Mais pour autant, dans un pays déjà épuisé, toutes ces pertes humaines semaient le doute quant à la direction prise par une guerre qui, de plus en plus, semblait interminable. Cette incertitude a encore empiré en juin, lorsqu'un long portrait de Stanley McChrystal est paru dans Rolling Stone. L'article, intitulé « The Runaway General », le général en roue libre, se montrait très critique à l'égard de la politique américaine et suggérait que le Pentagone m'avait dupé en me persuadant de m'acharner pour une cause perdue. Mais ça, ce n'était pas nouveau. Ce qui captivait Washington, c'était toutes les scènes auxquelles le journaliste avait pu assister et le tombereau de remarques acerbes que McChrystal et son équipe déversaient sur des alliés, des élus et des membres de mon gouvernement. Dans un passage, McChrystal et un conseiller réfléchissent en plaisantant à ce qu'ils pourraient répondre si on les interrogeait sur le vice-président Biden. « Vous voulez qu'on parle du vice-président Biden ?» cite l'article. « C'est qui ça ?» À quoi le conseiller répond. « Joe Biden ? Joe Bidon, oui. » Ailleurs, McChrystal se plaint d'être obligé de dîner avec un ministre français à Paris. « Je préférerais encore me faire casser la gueule. » Et râle devant un email de Richard Holbrook, conseiller spécial de Hillary et diplomate aguerri. « J'ai même pas envie de l'ouvrir. » Et bien que je sois plutôt épargné par les moqueries, un collaborateur de McChrystal fait observer que son patron a été déçu par notre rendez-vous précédant sa nomination en tant que commandant de la coalition et suggère que j'aurais dû accorder davantage d'attention au général. Au-delà du fait que cet article allait fatalement faire naître des rancœurs et raviver au sein de l'équipe afghane des dissensions que j'espérais enterrer, il donnait de McChrystal et de son entourage l'image d'une bande d'étudiants arrogants. Je n'osais pas imaginer la réaction des parents de Corey Remsburg s'ils tombaient sur cet article. « Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête », m'a dit Gates pour tenter de limiter la casse. « Rien du tout », ai-je dit. « Il s'est fait avoir. » Mon staff m'a demandé ce que je comptais faire. J'ai répondu que ma décision n'était pas encore prise, mais que, en attendant, je voulais que McChrystal soit dans le prochain vol pour Washington. Au début, je comptais laisser le général s'en tirer avec un blâme, et pas uniquement parce que Bob Gates soutenait que nul ne mènerait mieux que lui l'effort de guerre. Je savais que si mes conversations avec mes proches collaborateurs avaient été enregistrées, nous n'en serions sans doute pas non plus sortis grandis. Et même si, par imprudence ou vanité, McChrystal et son entourage avaient commis une erreur épouvantable en s'exprimant de la sorte devant un journaliste, chacun à la Maison-Blanche avait déjà dit dans un micro des choses qu'il aurait dû taire. Puisque je n'avais pas viré Hillary, Ram, Valérie ou Ben pour avoir eu un jour la langue un peu trop bien pendue, je n'allais pas traiter McChrystal différemment. Mais les 24 heures suivantes m'ont amené à penser que son cas était bel et bien différent. Comme tous les commandants militaires se plaisaient à me le rappeler, les forces armées des États-Unis reposaient sur une discipline stricte, des codes de conduite clairs, la cohésion de leurs unités et des chaînes de commandement rigoureuses. Parce que les enjeux étaient toujours plus élevés. Parce que les comportements individualistes et les erreurs personnelles avaient des conséquences plus graves qu'un moment de gêne ou un manque à gagner. Des vies étaient en jeu. Un caporal ou un capitaine dénigrant ses supérieurs dans des termes aussi explicites aurait écopé d'une sanction sévère. Il me semblait donc nécessaire que les mêmes règles s'appliquent à un général 4 étoiles, peu importe ses qualités, son courage ou ses décorations. Cette exigence de responsabilité et de discipline s'étendait au contrôle de l'armée par la société civile, un élément que j'avais rappelé dans le bureau ovale à Gates et à Mullen, visiblement sans grand effet. Dans le fond, j'admirais l'esprit rebelle de McChrystal, son mépris pour le simulacre et toute autorité qu'il estimait imméritée. Cela faisait de lui sans aucun doute un meilleur chef et expliquait la loyauté farouche que lui vouaient les troupes qu'il commandait. Mais dans l'article de Rolling Stone, j'avais retrouvé chez ses conseillers et lui le sentiment d'impunité qui régnait chez certains hauts gradés pendant les années Bush. L'idée que, une fois la guerre commencée, ceux qui se battent doivent bénéficier d'un blanc-seing absolu et les politiciens se contenter de leur donner ce qu'ils demandent puis débarrasser le plancher. C'était une façon de voir séduisante, surtout exprimée par un homme du calibre de McChrystal. Mais elle menaçait de saper un principe fondateur de notre démocratie représentative, et j'étais déterminé à y mettre fin. C'est par une matinée chaude et lourde que McChrystal et moi nous sommes enfin retrouvés seuls dans le bureau ovale. Il paraissait assagi et serein. À sa décharge, il n'a pas essayé de se justifier. Il n'a pas prétendu que les citations étaient fausses ou sorties de leur contexte. Il m'a simplement présenté ses excuses et sa démission. Je lui ai expliqué pourquoi, malgré l'admiration et la reconnaissance que j'avais pour lui et ses états de service, j'avais décidé de l'accepter. Après son départ, j'ai tenu une conférence de presse dans la Roseraie pour exposer les raisons de ma décision et annoncer que le général David Petraeus allait prendre le commandement des forces de la coalition en Afghanistan. C'est Tom Donilon qui avait eu l'idée de le promouvoir à ce poste. Non seulement Petraeus était le chef militaire le plus connu et respecté du pays, mais il avait dirigé le commandement central et connaissait donc sur le bout des doigts notre stratégie en Afghanistan. La nouvelle n'aurait pu être mieux accueillie étant donné les circonstances. Malgré tout, à la fin de la conférence de presse, j'étais furieux. J'ai demandé à Jim Jones de convoquer sur le champ tous les conseillers en sécurité nationale. La réunion n'a pas duré longtemps. « Je vous annonce officiellement que j'en ai ma claque », ai-je dit en haussant progressivement le ton. « Je ne veux plus lire le moindre commentaire sur McChrystal dans la presse. Je ne veux plus de blabla, plus de rumeurs et plus de coups de poignard dans le dos. Ce que je veux, c'est que tout le monde se mette au boulot. Et s'il y en a parmi vous qui ne sont pas capables de travailler en équipe, alors pour eux aussi ça va être la porte. Je ne plaisante pas. » On aurait entendu une mouche voler. J'ai tourné les talons et je suis parti, suivi par Ben. Il était apparemment prévu que nous travaillions ensemble sur un discours. J'aimais bien Stan, ai-je dit plus doucement pendant que nous marchions. Vous n'aviez pas vraiment le choix, a répondu Ben. Je sais, mais ce n'est pas plus facile à digérer pour autant.